un journal présenté par Oana Favenec. Bonsoir.
Bonsoir Camille, bonsoir à tous. À Beyrouth, les Libanais prennent des balais et tentent de nettoyer le centre-ville. Trois jours après la double explosion qui a tué au moins 149 personnes et détruit la moitié de la ville, tout en refusant l'idée d'une enquête internationale, le président libanais avance deux hypothèses pour expliquer l'explosion, n'hésitant pas à parler d'un missile ou d'une bombe, alors que son rôle au pouvoir est de plus en plus décrié par la population. Les enfants français pourraient reprendre le chemin de l'école presque normalement à la rentrée. Le protocole envisagé s'est considérablement assoupli. Les syndicats de l'enseignement s'en alarment alors que l'épidémie de Covid semble frémir en France. À Beyrouth, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent d'heure en heure. 72 heures après l'explosion qui a fait au moins 149 morts, des milliers de blessés et de nombreux disparus, les secours se concentrent désormais sur le point zéro, au cœur du port de la capitale libanaise. Le centre de Beyrouth, tout près de la zone portuaire, a subi d'énormes dégâts. Nathanaël Charbonnier s'y est rendu et il a assisté au travail acharné de centaines de personnes, déblayant sans relâche pour tenter de redonner à la ville un semblant de normalité.
C'est un peu comme vider l'océan avec une petite cuillère, mais ici à Beyrouth, ce sont de simples balais qui tentent lentement d'effacer les traces de l'explosion.
On n'a pas le choix.
Mais vous avez une petite pelle là.
C'est pas grave, petit à petit, on va y arriver.
Des balais de toutes les couleurs, de toutes les tailles pour retirer les montagnes de verre qui recouvrent le sol.
C'est votre magasin ici ?
Non, c'est un bureau pour l'hôtel. On allait ouvrir un hôtel ici. Et voilà, vous pouvez voir ce qu'on a maintenant.
Ça paraît dérisoire, le balai.
Tout à fait, oui.
À Beyrouth, on nettoie quand c'est encore possible. Sinon, on déménage, comme Michel, qui nous entraîne dans son appartement dévasté.
Donc là, on rentre dans un couloir. Ah, le mur est fendu.
Le mur de mes enfants. Pour cela, on doit quitter.
Vous quittez votre maison?
Oui, oui.
Ça faisait combien de temps que vous habitiez ici?
Ça fait...
30 ans. Ça fait 30 ans que vous habitiez ici.
Oui, oui.
Les images sont fortes, mais les mots se font rares lorsqu'il s'agit de raconter que l'on a tout perdu. Reste alors le courage des Libanais, courage immense.
Continue Libanais, on est tous courageux.
Bien sûr, tout le monde a la force.
Alors oui, Beyrouth renaîtra de ses décombres, mais la colère des Libanais, elle, restera intacte et ne semble pas prête de s'effacer.
Des images de la ville qui se relèvent à peine sont à retrouver sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Quant aux raisons de cette catastrophe, une enquête a immédiatement été déclenchée par les autorités libanaises. Les premiers résultats sont attendus demain. Le Hezbollah nie catégoriquement avoir entreposé des armes, des missiles, des balles ou du nitrate dans le port de Beyrouth. Emmanuel Macron, en déplacement hier à Beyrouth, appelait de ses voeux une enquête internationale. Hypothèse balayée aujourd'hui d'un revers de main par le président libanais, Bertrand Galichet.
À 85 ans, le président libanais, au pouvoir depuis 2016, n'entend pas autoriser une enquête internationale sur la catastrophe de mardi, estimant qu'elle diluerait la vérité. Pendant ce temps, les autorités multiplient les arrestations parmi les fonctionnaires des douanes et du port de Beyrouth. Une vingtaine de personnes ont déjà été interpellées. Il n'est pas certain que ces arrestations suffisent à calmer une opinion publique excédée par l'incurie de ses dirigeants. L'opposition de Michel Aoun à une enquête internationale, officialisée sur son compte Twitter, a d'abord été exprimé à la télévision. Au cours de cette interview, le chef de l'État libanais estime que l'explosion de mardi est due soit à la négligence, soit à une intervention extérieure. Il évoque même un missile ou une bombe. Michel Aoun assure avoir demandé à Emmanuel Macron des images aériennes pour vérifier cette hypothèse. D'autres pays pourraient être sollicités. Enfin, le président libanais, très critiqué par une grande partie de la population, juge nécessaire de revoir le système politique libanais qu'il juge paralysé, mais sans donner la moindre précision.
Washington annonce aujourd'hui l'envoi immédiat de 15 millions de dollars de nourriture et de médicaments. La France annonce une conférence des donateurs dans les prochains jours afin de coordonner l'aide humanitaire d'urgence. L'Union européenne y participera. En Côte d'Ivoire, le président sortant revient sur sa promesse et se présente pour un troisième mandat. Un devoir, un sacrifice, a expliqué hier soir Alassane Ouattara à la télévision, en raison de la mort début juillet de son dauphin, Amadou Gon Coulibaly, 61 ans. Le président sortant avait pourtant depuis quelque temps exprimé le vœu de laisser la place à la nouvelle génération. À Abidjan, Olivia Macadré.
Depuis quelques semaines, en Côte d'Ivoire, on a un peu le sentiment d'assister à une triste fable. Il y a 10 jours, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, annonçait la candidature d'Henri Konan Bédier, 86 ans, à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Hier soir, c'est Alassane Ouattara, 76 ans, qui est revenu sur sa décision de passer le flambeau en déclarant finalement être candidat à sa propre succession pour un troisième mandat, sous les couleurs du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Tous deux, figures bien connues et vieillissantes de la scène politique ivoirienne, ont été pressés par leur entourage de se relancer dans la course au poste suprême, au motif que personne n'aurait encore les épaules suffisantes pour leur succéder. Le passage à témoin des hommes politiques à une jeune génération est-il un vœu pieux en Côte d'Ivoire? Eh bien, la question commence sérieusement à se faire jour. Seule inconnue persistante, une potentielle candidature du troisième homme, Laurent Gbagbo. Si le Front populaire ivoirien a désigné la semaine dernière Pascal Affine-Guessan, le parti part toutefois en ordre dispersé et il n'est toujours pas exclu que l'ancien président annonce une candidature dissidente si les circonstances judiciaires le lui permettent. Dans un pays encore marqué par les stigmates de plusieurs crises post-électorales, la plus récente remontant à 2010-2011, il semblerait que la bataille des égos et le désir de vengeance reprennent ses droits à 3 mois de l'élection. Tous disent craindre un retour en arrière, c'est pourtant bien là que ces 3 vieux éléphants semblent emmener dangereusement les Ivoiriens.
Olivia Macadré à Abidjan. En Afrique, le cap du million de cas de coronavirus a été franchi aujourd'hui. Un pays est particulièrement touché avec plus de la moitié des malades sur le continent, l'Afrique du Sud. Aux États-Unis, plus de 2000 personnes sont mortes de la Covid en 24 heures. Un tel bilan n'avait pas été atteint depuis le début du mois de mai. Les nouvelles restrictions imposées par certains États semblent avoir réussi à endiguer l'emballement des contaminations. Mais 50 000 à 60 000 cas supplémentaires sont tout de même recensés quotidiennement ces derniers jours. Aucune stratégie nationale claire et des restrictions fédérales très inégales qui ne devraient pas arranger la situation. En témoigne ce rassemblement monstre de motards qui débute dans le Dakota du Sud, Loïc Loury.
250 000 personnes dans une ville de 7 000 habitants, la distanciation physique ces 10 prochains jours devrait être difficile à respecter à Sturgis, dans l'état rural du Dakota du Sud. Cette bourgade, à partir d'aujourd'hui, accueille en effet l'un des rassemblements de motards les plus importants de la planète. « Nous ne pouvons pas empêcher les gens de venir », assure dépité le maire de la ville malgré l'inquiétude de ses administrés. « Il n'y a plus grand-chose d'autre à faire, dit-il, que d'encourager la responsabilité personnelle » ou de distribuer des masques. La gouverneure républicaine Christine Noem, elle, a poussé pour que la manifestation très lucrative se tienne malgré la situation sanitaire. Le Dakota du Sud n'est pas New York, dit-elle à raison. La situation, pour autant, n'en illustre pas moins l'absence de réponse fédérale claire face au coronavirus, rassemblement massif d'un côté, tandis qu'à New York, justement, des postes de contrôle sont installés aux accès clés de la ville. Le pays, selon les États, vit aujourd'hui une épidémie à 2 vitesses dont il n'est pas prêt de sortir.
Loïc Loury à New York. En France, un nouveau protocole a été transmis aux écoles, collèges et lycées avec des règles assouplies par rapport à ce qu'on a pu connaître pendant au déconfinement. La distance d'un mètre entre chaque élève n'est plus obligatoire à l'extérieur ou même à l'intérieur quand elle n'est matériellement pas possible, mais avec un masque pour les enfants de plus de 11 ans. Un protocole basé sur un avis du Haut Conseil de la Santé publique qui date d'il y a un mois. Or, la situation a bien changé depuis, d'où l'inquiétude des syndicats de l'enseignement, Maxime Fayol.
Oui, car le plan paraît inadapté à la réalité d'aujourd'hui et encore plus à celle de la rentrée si le virus continue de circuler de la même façon. Les syndicats estiment qu'une révision de ce plan serait la bienvenue et le plus vite possible afin de pouvoir anticiper, estime Stéphane Crochet, il est secrétaire général de l'UNSA enseignant.
Là, on voit la validation d'un protocole sanitaire très très allégé et mis en ligne à un moment où on a une circulation du virus assez haute. Toute la communauté éducative craint que l'on revienne à ce que l'on a trop connu au printemps dernier, des informations et des consignes de dernière minute qui mettent la panique dans les écoles et les établissements.
Le protocole actuel ne prévoit certes pas de grands changements par rapport à la reprise des cours fin juin, mais il nécessite des moyens et c'est une crainte de Bruno Bobkiewicz. Il est secrétaire national du syndicat des personnels de direction.
Qui fournit le matériel pour les personnels? Est-ce que les collectivités vont fournir des masques pour les élèves? On voit bien que la présidente de la région Île-de-France, par exemple, en a parlé. Le gel hydroalcoolique, les produits désinfectants, tout ça, ça va entraîner des surcoûts. Qui paye? Et est-ce que les stocks seront au rendez-vous? Parce que quand il va s'agir de commander des masques pour tous les élèves de France, on est sur des volumétries qui sont quand même énormes.
Et il reste très peu de temps pour répondre à ces questions puisque la pré-rentrée des professeurs est dans un peu plus de 3 semaines.
Maxime Fayol. Dans la Manche, 14 migrants ont été pris en charge la nuit dernière par les secours français. Une embarcation en difficulté dans le chenal de Dunkerque. 13 migrants à son bord a été signalé par un porte-conteneur. Sur la route du retour, le patrouilleur des affaires maritimes a croisé une nouvelle personne en difficulté. Le préfet maritime de la Manche met en garde les migrants qui envisagent de rejoindre la Grande-Bretagne. La zone est dangereuse pour la vie humaine. Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir.
Le nombre de traversées infructueuses accélère depuis début juillet.
C'est un constat qui est partagé des deux côtés puisque la Grande-Bretagne s'inquiète de voir débarquer des migrants sur ses plages, quand en France, la préfecture maritime de la Manche tient un décompte heure par heure de ses interventions. En une seule semaine, depuis le 1er août, 71 personnes ont été sauvées. Mardi dernier, par exemple, le CROSS, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage du Cap Griné, a été alerté d'abord à 4h du matin pour un kayak, puis à 6h46 pour un Zodiac. Parallèlement à un bateau de pêche a signalé une embarcation en perdition avec 8 personnes à bord. Et à 8h30, ce sont 3 individus accrochés à une bouée du chenal de Calais qui ont été repérés. Évidemment, la vedette de la gendarmerie maritime est intervenue particulièrement vite dans ce cas-là. Enfin, à 10h30, on signalait 20 migrants en difficulté. Tout ça en une seule nuit. Depuis le début du mois de juillet, les tentatives désespérées de rejoindre les côtes anglaises s'accélèrent. Des migrants ont même tenté la traversée en paddle. Sur un mois, les autorités françaises ont intercepté et donc sauver au moins 251 personnes contre 36 en juin. Le gouvernement britannique juge, lui, inacceptable qu'autant d'embarcations échappent à la surveillance française. Un millier de migrants auraient débarqué en juillet côté anglais, d'après l'agence Associated Press. La préfecture maritime de son côté souligne que la Manche est dangereuse. Des vents de force 7 ou supérieure balayent cette mer 120 jours par an.
Tara Schlegel. Le Conseil constitutionnel censure l'essentiel de la loi sur les mesures de sûreté pour les détenus terroristes sortant de prison. Plusieurs atteintes aux libertés fondamentales du texte LREM ont été retenues par les sages, notamment la liberté d'aller et venir, le respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale. Un niveau record pour le déficit commercial de la France au mois de juin. Il atteint 7,96 milliards d'euros. Au deuxième trimestre, la balance commerciale s'est creusée de 20,4 milliards. Les importations se redressent plus vite que les exportations à leurs jumelles, car elles sont toujours plombées par les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19.
Oui, on a d'un côté la reprise de la consommation des ménages au mois de juin, qui s'est mécaniquement accompagnée d'une hausse des importations. On parle là notamment des biens d'équipement, des produits de l'industrie textile, au premier rang desquels les masques en provenance d'Asie ou encore les approvisionnements en téléphone et équipements de la communication qui ont retrouvé leur niveau d'avant-crise. Et puis de l'autre côté, on a effectivement des exportations qui restent à la peine, et ce dans toutes les familles de produits, mais c'est particulièrement vrai dans le secteur aéronautique qui fait partie de nos filières les plus fortes à l'international et où bien sûr les livraisons s'effondrent. Près de la moitié de la baisse des exportations est d'ailleurs liée au secteur des transports dans son ensemble. Relancer l'export, ce sera l'un des sujets du plan de relance qui sera présenté le 25 août prochain. 200 millions d'euros seront dégagés à cette fin, précise le ministre Franck Riester, passé de la culture au commerce extérieur. Des moyens qui restent limités sur les 100 milliards débloqués pour ce plan et qui seront notamment investis dans la communication pour aider les entreprises à faire valoir leurs atouts, notamment lors de foires ou de salons. Reste de lourdes incertitudes sur le calendrier de la reprise de l'économie mondiale, sans oublier les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Il est ainsi probable que la balance commerciale se creuse un peu plus cette année. Pour rappel, elle avait déjà accusé un déficit de 59 milliards d'euros l'an dernier.
Alors, jumet. Période noire pour les salles obscures. La fréquentation des salles de cinéma s'est effondrée en juillet, moins 73,8%. Une chute de quasi 65% sur un an, un été sans blockbuster. Après plus de 3 mois de fermeture à cause du coronavirus. Mais la reprise a été plus dynamique que celle observée en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas ou en Espagne, relève le CNC. 9 départements d'Île-de-France, dont Paris, sont désormais placés en vigilance rouge à la canicule. Météo France s'en explique et parle de la pollution à l'ozone, du Covid et de la densité de population dans cette zone fortement urbanisée. 53 autres départements sont en vigilance orange, des Pyrénées à la frontière belge en passant par le centre du pays, le Grand Est et une partie de Rhône-Alpes. Demain, on attend des nuages sur la Bretagne et des Charentes aux Landes. Dans la matinée, le ciel se couvrira du nord au centre et des orages sont à prévoir sur le massif central et les Pyrénées. Les maximales varient entre 26 et 32 degrés sur la Bretagne et l'ensemble du littoral. Ailleurs, elles atteignent 33 à 40 degrés. C'est la fin de cette édition réalisée avec Caroline Beneteau.